Radio Capi.
Oh, Capi. Le journal, présenté par Gisèle Cage.
Bonsoir à tous et merci d'être à l'écoute. Voici votre journal d'information. On commence tout de suite avec les grands titres de ce soir. Effondrement dramatique d'un immeuble en construction à Bounia. Des ouvriers et stagiaires piégés sous les décombres. Les secours appuyés par la MONUSCO et les autorités locales poursuivent les recherches pour retrouver d'éventuels survivants. Levée des immunités parlementaires de Joseph Kabila par le Sénat. Le PPRD dénonce une parodie des justices, un acharnement contre son autorité morale, tandis que l'Union sacrée justifie la décision par de lourdes accusations des crimes de guerre et de collision avec la rébellion du M23. Privé d'eau depuis des mois, l'hôpital provincial de Kinkanda attend toujours la concrétisation d'un devis transmis par la régie des eaux en mars entre lenteur administrative et silence des autorités qui bloque la solution. Théodore Socrate Kabeyangandu, directeur régional de la régie des eaux Congo Central, brise le silence dans une interview exclusive accordée à Radio Okapi. C'est tout pour les titres. Direction Bounia, dans la province de l'Ituri, où un drame s'est produit jeudi dans le quartier Bankoko. Un immeuble de 3 étages en cours de construction s'est brutalement effondré, ensevelissant une vingtaine d'ouvriers, parmi lesquels figurent plusieurs élèves stagiaires. Selon des sources concordantes, 5 personnes ont pu être extraites vivantes des décombres et évacuées en urgence vers un centre hospitalier. Des corps sans vie ont également été retrouvés sur les lieux. Face à l'ampleur de la catastrophe, la MONUSCO, en coordination avec les autorités provinciales et divers partenaires, a rapidement mobilisé des équipes de secours pour tenter de retrouver d'éventuels survivants encore coincés sous les gravats. Isaac Remoyope s'est rendu sur place. Voici son récit.
Les drames s'est produit jeudi dans l'après-midi pendant que des maçons, des soudeurs, des électriciens et même des élèves stagiaires en électricité effectuaient les travaux de finissage de ces bâtiments à 3 niveaux. Soudain, l'édifice s'est écroulé pour des raisons non encore élucidées. Certaines autorités, dont les maires de la ville, se sont déployées sur place pour mobiliser les ressources ainsi que des moyens logistiques pour sauver des vies en détresse. Des casques bleus népalais, indonésiens, sénégalais ainsi que des policiers de la MONUSCO sont à pied d'œuvre depuis jeudi après-midi aux côtés des équipes de secours avec 4 ambulances pour tenter de retrouver des survivants. Au moins 6 personnes sont déjà sorties vivantes, fracturées ou blessées et sont admises aux soins d'un district sanitaire local. Pour l'instant, il y a 2 morts. D'autres personnes, dont le nombre n'est pas encore déterminé avec précision, sont encore coincées sous les décombres. Selon un rescapé, ils étaient au total 30 ouvriers, dont 7 élèves. Les recherches se poursuivent pour extraire d'autres survivants. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Cap sur les infrastructures à Kinshasa, dans la commune de Ngaliema. Les travaux de réhabilitation de l'avenue du touriste sont bel et bien lancés avec le curage des caniveaux comme première étape. Cette route stratégique qui relie Kintambo Magasin à Mbinza Popage est en piteux état et régulièrement sujette des embouteillages rendant la circulation difficile. Alors comment se déroulent les travaux sur le terrain et comment les usagers perçoivent-ils ces chantiers? Elis Kavira s'est rendu sur place. Reportage.
Ces éboulements de pierres et de terre, ainsi que des nids de poules et de flaques d'eau, sont habituellement à la base des embouteillages sur cette chaussée. D'autres usagers de la route sont plutôt pessimistes quant aux résultats de ces travaux en cours. C'est le cas de Jeannot Mboui, taximan moto, sur le tronçon magasin pompage.
Comme ils sont en train de faire sortir ces pierres du caniveau, ça va rester encore là. Pour qu'ils réussissent, ils doivent construire un mur. Sinon, avec les sables qui glissent, quand il va pleuvoir, il y aura encore des débordements d'eau. Ça ne sera pas une solution.
D'après Thierry Montoté, ingénieur de l'Agence congolaise des grands travaux chargé du suivi sur place, le curage des caniveaux en cours n'est que la phase préliminaire d'un grand projet.
Ce sont des travaux d'abord préparatoires, des curages des caniveaux. Et il y aura des travaux sur la réparation de différents points critiques sur la chaussée. Et à ce moment-là, maintenant, nous allons passer sur la deuxième phase, qui est l'élargissement de la chaussée. Chaque fois quand il y a la pluie, il y a souvent éboulement. Alors l'idée, c'était de faire des talures pour éviter ces différents éboulements.
Il affirme que c'est après des concertations en cours entre la CGT, le ministère des Infrastructures et d'autres parties prenantes que le délai des travaux sera fixé et des solutions alternatives seront communiquées aux usagers de cette route.
Parlons de la décision du Sénat de lever les immunités parlementaires de l'ancien président Joseph Kabila. Celle-ci a provoqué une onde de choc sur la scène politique congolaise. Le Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie PPRD dénonce une parodie de justice et accuse le pouvoir en place de s'acharner politiquement contre son autorité morale. Ferdinand Kambere, secrétaire permanent adjoint du parti, fustige une décision illégale fondée sur des accusations qu'il qualifie d'infondées. Pour lui, cette démarche viole les principes de l'état de droit. En face, l'Union sacrée assume pleinement la procédure. Elle affirme que toutes les étapes légales ont été respectées et que Joseph Kabila devra désormais répondre devant la justice de lourdes accusations, crimes de guerre et complicité présumée avec la rébellion de l'AFC M23. Grâce à Mzati, nous fait le point.
Selon le PPRD, le sénateur à vie et d'autres sénateurs n'ont pas le même régime pénal. Maître Ferdinand Kambere.
C'est une honte pour ce Sénat qui devait être considéré comme une chambre haute. Ces tripatouillages, ces violations de notre constitution et de nos lois et leurs propres règlements intérieurs, en réalité, est une preuve que c'est vraiment un acharnement lorsque vous y ajoutez cette précipitation dans laquelle ils ont envoyé une invitation pour 24 heures. C'est eux qui ont ramené les M23. C'est eux qui ont des accords avec le Rwanda. C'est eux, même aujourd'hui, qui continuent à discuter avec les M23. Alors qu'il disait que c'est une ligne rouge.
De son côté, Prince Epengue, porte-parole de la Mouka, affirme que la levée des immunités de Joseph Kabila est une erreur. On pourrait penser que Joseph Kabila récolte ce qu'il a semé, mais dans ce contexte de troubles, nous préférons le dialogue au lieu de la confrontation. Kengo avait sauvé l'ancien régime avec un mot. Ça m'a vient par manque de courage à enfoncer le pays dans l'incertitude. Pensons au peuple, déclare ses collaborateurs de Martin Fayoulou. Par contre, l'Union sacrée de la nation indique qu'aucune loi n'a été violée. Pour Mfumu Ntoto, l'un de ses communicateurs, l'ancien président de la République doit être poursuivi car il a tenu des déclarations incendiaires, légitimant les revendications du M23, mais aussi annonçant son retour au pays par la partie occupée par la rébellion.
À l'Assemblée nationale, Jacquemain Chabani, vice-premier ministre en charge de l'intérieur, de la sécurité, de la décentralisation des affaires coutumières, a été entendu hier jeudi. Il répondait à une question orale avec débat initié par le député Venance Eyanga Mboyo, inquiet face à la recrudescence des arrestations arbitraires, des tracasseries policières et de la présence d'agents fictifs au sein de la police nationale. Cette audition intervient dans un contexte de vives préoccupations sur les bavures policières régulièrement dénoncées par la société civile et certains élus. Le point avec Grâce Amzati.
Parti d'un constat fait lors de ses vacances parlementaires, l'élu de Moamba s'inquiète de la dégradation de la sécurité à Kinshasa, causée également par les agents de la police. Et Yangamboyo Venance.
Ces agissements de la part de ceux qui pourtant sont commis à la protection des citoyens et de leurs biens aggrave la situation et ternissent davantage l'image de notre État et de nos institutions, mais aussi de l'État des droits que nous aspirons à consolider.
En réponse, le ministre de l'Intérieur rassure les élus du peuple de son implication dans la sécurisation des populations et de leurs biens. Pour Jacquemain Chabani, le projet de loi portant réforme de la police est une réponse aux questions posées.
En attendant l'adoption par l'Assemblée nationale de la loi de programmation de la mise en œuvre de la réforme de la police, le contrôle à l'improviste s'effectue pour mettre la main sur tous les éléments qui s'évertuent à tracasser la population, à opérer des opérations arbitraires et à violer les droits et libertés fondamentaux des citoyens.
Au cours du débat, une quarantaine de députés se sont étalés sur d'autres cas d'insécurité, notamment à Lubumbashi et à Boma. Le conflit des chefs coutumiers dans les provinces, les phénomènes Kuluna à Kinshasa et Mobondo au sud-ouest du pays, ainsi que des braquages. Dans l'optique de satisfaire toutes les préoccupations des élus nationaux, Jacquemain Chabani a sollicité un délai de 48 heures qui lui a été accordé.
Lors de la plénière de ce jeudi, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a annoncé la mise en place de deux commissions chargées d'examiner le réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation visant le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba. L'actualité nous amène également dans la province du Haut-Ouélé à une semaine de l'expiration de l'ultimatum lancé par l'état-major opérationnel des FARDC basé à Dungu. Deux importants mouvements des populations bororo électoraux sont observés dans la région, notamment dans les territoires du Faradjé. Selon les informations recueillies sur place, une première vague d'éleveurs se dirige du nord vers le sud, quittant Faradjé en direction de la frontière avec le Soudan du Sud. Parallèlement, un second groupe prend la route vers le territoire voisin de Ouata. La synergie des organisations de la société civile des Faradjé salue ces déplacements qu'elle considère comme un signe positif. Elle appelle toutefois les autorités à mettre en place des mesures d'encadrement appropriées afin de garantir le bon déroulement de ce processus. Un reportage de Jacques Moukonkolé.
Cet ultimatum accordé au Mbororo depuis le 10 mai dernier court jusqu'au 1er juin prochain, alors que ces éleveurs ont commencé les mouvements vers leur lieu de cantonnement à Niangara. La population les en empêche au motif qu'à leur passage, leurs troupeaux dévastent les champs. L'administrateur de territoire assistant de Faradjé, Benjamin Abiandro, en appelle au bon sens de tous.
Après de partir, nous sommes très contents que la population les laisse partir parce que nous cultivons les champs, nous vivons des champs. Depuis que le monde a existé, il n'y a aucune bonne ressource de vivre entre les éleveurs et les agriculteurs.
La synergie des organisations de la société civile de Faradjé qualifie la décision des autorités militaires de salutaire. Jean-Claude Malitano, coordinateur de cette structure citoyenne, leur demande d'envisager des mesures idoines pour l'encadrement de ces mouvements.
Nous demandons à nos autorités d'organiser une rencontre qui va réunir toutes les parties prenantes à ce processus pour essayer d'analyser, mettre sur pied des mécanismes qui vont faire aboutir cette décision.
La société civile espère par ailleurs qu'au terme de leur identification, le statut de ces éleveurs Mbororo au pays sera clairement précisé, puisque, souligne-t-elle, ils sont considérés tantôt comme des réfugiés climatiques, tantôt comme des émigrés ou encore des demandeurs d'asile. Jacques Moukonkolé, Kisangani, Radio Okapi.
Au nord de la province du Sud Kivu, pour parler santé, le Comité international de la Croix-Rouge, CICR, a livré un important lot de médicaments au centre hospitalier des Kacheke, situé dans la zone de santé de Calais. Cette aide vise à renforcer la prise en charge des patients, en majorité des déplacés internes et des blessés de guerre. Cette intervention humanitaire intervient dans un contexte de violence persistante dans la région, marqué par des affrontements récurrents entre le rebelle de l'AFC AM23 et les groupes d'autodéfense au Wazalendo. Les précisions avec Alain Rong.
Ce lot de médicaments offerts au centre hospitalier de Kacheke par le CICR est une réponse aux besoins en soins de santé dans cette institution qui n'était plus en mesure de renouveler son stock en produits pharmaceutiques. Son médecin directeur, Bahati Benjamin.
Il y a 4 ans, nous avons travaillé avec le CICR. Maintenant qu'ils ont trouvé mieux des engagements, ils ont préféré nous donner en plus ces médicaments qui va nous aider à couvrir les 2 mois ou les 3 mois qui vont venir. Il y a un problème lié aux médicaments, un problème lié à l'approvisionnement. Et cette donation vient de tomber à point nommé parce que nous étions dans une difficulté notoire d'approvisionnement.
Les déplacés internes et externes présents dans l'aire de santé bénéficiaire de la dotation du CICR seront pris en charge. Pacifique Chiraluira, chef de zone de santé rurale de Calais.
Il y a des déplacés internes, mais aussi les déplacés externes. Ces déplacés-là auront quand même accès aux soins avec les médicaments qui viennent d'être approvisionnés dans l'aire de santé de Kacheke et précisément au centre hospitalier de Kacheke.
2 autres institutions, Ramba et Chigoma, bénéficient également de l'appui du CICR pour soigner gratuitement les personnes victimes des conflits à Calais.
Retour en Ituri. Les cas de violences sexuelles en milieu scolaire deviennent de plus en plus fréquents, notamment à Bounia, chef-lieu de la province. C'est le constat alarmant dressé par Youripor, un mouvement des jeunes engagés dans la sensibilisation et la promotion de l'éducation. Avec le soutien de l'UNICEF, ils ont organisé ce jeudi une journée de sensibilisation pour dénoncer ces fléaux, encourager l'excellence scolaire et promouvoir une saine émulation entre les établissements de la ville. Niclette Kodiango nous en dit plus.
Plus de 200 élèves venus de différentes écoles de la ville de Bounia ont participé à cette séance de sensibilisation contre les violences sexuelles en milieu scolaire. Selon Yuri Pot, qui est une plateforme de jeunes bénévoles encadrée par l'UNICEF pour la promotion de l'éducation, cette pratique prend de proportions inquiétantes et les filles en sont les principales victimes. Ambogo Baraka, élève du 4e commercial au complexe scolaire Léopold, s'engage à briser le silence pour dénoncer les auteurs de ces fléaux.
Il y a les profs qui les timide, il dit si tu ne te donnes pas à moi, si tu ne couches pas avec moi, donc tu ne dois pas réussir, tu ne monteras pas dans la classe supérieure. Et les filles aussi se laissent faire, elles vont rester silencieuses. Du coup, ça le tue intérieurement. Donc les filles, elles doivent dénoncer, elles doivent parler.
Innocent Pitapita Kayumba, élève de 4e technique sociale au complexe scolaire Lodja, encourage les élèves à s'impliquer dans cette lutte en vue d'éradiquer ces violences en milieu scolaire.
Qu'ils ne se laissent pas intimider par ces enseignants. S'il y a un cas pareil, qu'ils partent vite dénoncer cela.
Plusieurs activités, dont des jeux concours et matchs de football, sont prévues dans le cadre de cette sensibilisation. Bounia, Nicolas Kodiango, Radio Okapi.
UPEN Zéro Plagiat, c'est le nom de la campagne lancée cette semaine par les autorités de l'Université Pédagogique Nationale à Kinshasa. Objectif, promouvoir l'excellence académique en luttant contre le plagiat grâce à un logiciel de détection désormais intégré dans le processus de validation de travaux scientifiques. Jointe par téléphone, la rectrice Yvonne Ibebeke a expliqué à Elise Kavira le contour de cette initiative et son fonctionnement.
Dans un livre, bien dans une thèse ou mémoire, il y aura toujours quelque chose qui a été déjà fait par quelqu'un d'autre ou bien d'autres personnes avant vous. Mais vous ne pouvez pas trouver 50% de quelque chose qui a été fait par quelqu'un d'autre. Cela veut dire quelle est votre contribution. En fait, on soumet le travail à l'anti-plagiat avant la défense. Évidemment, les premiers et deuxièmes cycles, nous n'allons pas les mettre au même niveau que les doctorats. Eux, ils pourront avoir un pourcentage un peu plus élevé. Pour le moment, nous tolérons 20% pour les DA et les thèses. Mais pour les mémoires, nous allons nous entendre pour voir quel est le pourcentage que nous allons tolérer pour les études.
Dans le cadre de ce lancement, un second outil numérique baptisé Studium a également été présenté. Ce logiciel permettra aux étudiants de publier leurs travaux académiques et leur offrira un accès élargi à plusieurs bibliothèques internationales, renforçant ainsi leurs ressources de recherche.
Actualité internationale.
En Côte d'Ivoire, le président du Conseil européen, Antonio Costa, a reçu jeudi le prix Félix Houphouët-Boigny, UNESCO pour la paix. Ce prix lui a été décerné pour saluer son engagement à défendre le dialogue et le multilatéralisme, une attribution d'autant plus particulière que pendant la cérémonie officielle, la question de la présidentielle ivoirienne était dans tous les esprits. Face à un parterre d'officiels, le président ivoirien Alassane Ouattara expose sa vision de la paix. Il faut privilégier le dialogue, dit-il, pour résoudre les crises au Soudan et en RDC. Et lorsque le président aborde la situation en Côte d'Ivoire, il déclare cette année de 2025 sera marquée par l'élection du président de la République de Côte d'Ivoire. Dès que je prononce ces mots, tout le monde attend que je prononce autre chose. Au sorti d'un entretien avec le chef de l'État ivoirien, le président du Conseil européen, Antonio Costa, a adopté une posture d'écoute. La Côte d'Ivoire est un état de droit, a-t-il prononcé dans un français parfait. L'Union européenne reconnaît l'intégrité de son système judiciaire et donc respecter les décisions qui sont prises par la justice ivoirienne. Des élections existent en tant qu'élections libres et démocratiques quand elles sont plurielles.
L'invité.
À Matadi, l'hôpital provincial de Kinkanda tourne au ralenti. Plus d'eau dans les robinets de plusieurs pavillons depuis 2 mois. Pourtant, un devis de la régie des eaux censé résoudre cette crise dort dans les tiroirs depuis mars. Pourquoi ces silences qui bloquent? Pour en parler, notre invité du jour est Théodore Socrate Kabeyangandou, directeur régional de la régie des eaux au Congo central. Il répond aux questions de Nana Pluriche Mambou.
Monsieur Théodore Kabeyangandou, bonjour.
Bonjour Madame Pluriche.
L'hôpital provincial de Kinkanda a fait plus de 6 mois sans recevoir l'eau de la régie des eaux. Depuis quand et de quelle manière avez-vous reçu cette information?
Merci Madame. La situation de la perturbation de la desserte à l'hôpital de Kinkanda ne peut pas être assimilée à un manque d'eau totale dans l'hôpital. C'est plutôt une partie des pavillons de l'hôpital qui n'ont pas d'eau. Et ça a été porté à notre connaissance au mois de mars. Nous sommes descendus sur le terrain pour vérifier. Nous trouvons que notre eau arrive jusqu'à l'entrée, là où s'arrête notre responsabilité à l'hôpital. Et que certaines parties de l'hôpital, notamment le côté occupé par l'OMS, a de l'eau régulièrement. Mais il se fait que dans certains pavillons de l'hôpital, il y a un problème d'eau dû à la situation des installations intérieures dont les canalisations pour certaines sont bouchées, d'autres très vétustes et d'autres sous-dimensionnées. Et que, après l'expertise qui a été demandée par l'hôpital, parce que l'hôpital nous avait écrit depuis le 13 mars demandant notre expertise, d'après l'expertise, on a trouvé que le plombier de l'hôpital avait même isolé certains pavillons pour faire face à la situation là-bas qui s'est créée par rapport aux canalisations sous-dimensionnées ou bouchées. Et notre expertise sollicitée a fait son travail et le 20 mars, nous avons dressé un devis que nous avons transmis à l'hôpital pour que si on mettait à l'intérieur de la régie des eaux ces moyens-là, que l'on puisse chercher à remettre le réseau normal suivant notre expertise pour que chaque fois qu'il y a l'approvisionnement de l'hôpital, que tout le monde ait de l'eau. Donc ce n'est pas un problème de manque total de l'eau à Kinkanda comme on dit ici, moi, non. L'eau arrive à Kinkanda, mais il y a certains pavillons de Kinkanda qui ne sont pas alimentés, mais ça c'est le travail intérieur. Donc ce n'est pas la responsabilité de la régie des eaux.
Et depuis que vous avez remis les défis à l'hôpital, est-ce qu'ils ont déjà réagi?
C'est un problème d'abord de santé publique, comme on dit. Tout le monde ici est saisi, même les autorités politiques administratives sont au courant. Nous avons même été contactés par la mairie de la ville pour nous demander si on avait déjà transmis le devis. Et nous avions confirmé et nous avions encore transmis sur base d'une lettre. Et là, nous attendons finalement que l'on puisse mettre en disposition de l'argent. Nous n'avons pas encore reçu un appel pour dire que l'argent est là. Mais du moins, le devis a été déposé. Il n'y a pas encore eu de réaction. Comme je vous dis, c'est depuis le 20 mars 2025.
Et vous, en tant que responsable de la régie des eaux, savez-vous l'impact du manque d'eau dans une structure médicale aussi importante que Kinkanda?
Oui, nous, nous savons qu'à l'hôpital, il faut qu'il y ait de l'eau. C'est comme ça que nous nous sommes empressés à porter notre expertise. Et on a amené l'expertise pour qu'ils mettent à notre disposition les moyens pour pouvoir les aider. Nous avons présenté un devis, comme je vous dis, qui a deux options. La première option, c'est la réhabilitation des canalisations vétustes. Ça s'élève à 12 000 $. Bon, le chiffre exact, c'est 12 711 $. Il y a aussi possibilité de leur construire un réservoir de 50 mètres cubes. Donc, si nous prenons cette deuxième option là-bas, et de faire la canalisation et construire le réservoir, ça ramène à 56 711 $. Donc, il y a deux options. À eux de pouvoir dire quelle est l'option la plus rapide pour que nous puissions travailler.
Ça fait cette situation de manque d'eau dans l'hôpital a provoqué un tollé au niveau des réseaux sociaux. À ce niveau, quel message pouvez-vous lancer à la population des Matadi, spécialement à ceux qui se disent communicateurs au niveau de la province?
Quand on se déclare communicateur, il faut chercher l'information et la vraie pour la diffuser. Nous avons vu une vidéo des réseaux sociaux où quelqu'un s'en prend à la haute hiérarchie de la région, notamment au DG, d'habitude, pour dire que ici, la population de Matadi demande ce qui se passe, qu'elle n'arrive pas à donner de l'eau. Non. Le problème est c'est né localement, on le connaît, et les autorités nous avaient contactés, c'est quand tout ça avait circulé. Nous nous sommes dit non, nous avons été sur le terrain, voilà ce que nous avons fait comme travail, nous attendons les financements. La population doit faire confiance à la région de l'eau qui se bat nuit et jour pour pouvoir amener de l'eau. Alors, s'il y a un problème de manque d'eau dans certains pavillons, ici, il faudrait peut-être recourir aux responsables de l'hôpital qui connaissent la chose, à partir du médecin directeur. Et nous attendons tous le financement. Donc, le problème, ce n'est pas la région, c'est le financement pour que la région fasse son travail. Parce que nous savons que Kinkanda, c'est une structure médicale. Il y a aussi CRC propre qui peut aussi faire face à ça. Parce que nous tous ici, on envoie les malades là-bas, nous payons nos factures. Donc nous nous sommes adressés à Kinkanda. Si Kinkanda cherche l'appui des autorités, que les autorités puissent peut-être aider Kinkanda. Mais sinon, nous, nous voyons la structure qui nous envoie des factures, nous nous payons, c'est comme tous les autres malades.
Merci.
Merci, madame.
Notre invité ce jour, Théodore Socrate Kabeyangandou, directeur régional de la régie des eaux Congo central, a répondu aux questions des Nana plus riches Mambou. C'est la fin de ce journal. Il a été mis en onde par Mimi Kindou, supervision par Alain Hirong, présentation par Gisèle Cage. Merci de nous avoir accompagnés. Restez à l'écoute pour plus d'actualités avec nous sur WhatsApp via les liens disponibles sur nos réseaux sociaux, notamment Facebook et X. Vous pouvez également consulter notre site web www.radiocapi.net pour des articles détaillé. À la prochaine pour un nouveau bulletin d'information.